Bonjour, la Terre à boire encore en vadrouille, cette fois au salon Punition Collective, au restaurant La Cantine Sauvage dans le 8e arrondissement de Paris. Je suis avec Laurent Delceau. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Punition Collective, c'est un salon organisé par Guillaume Barouin qui réunit une petite trentaine de vignerons. Alors la moitié de Bourgogne et l'autre moitié du reste du monde. Alsace, Beaujolais, Bordeaux, Corse, Loire, Rhône, mais aussi hors de nos frontières, Nouvelle-Zélande, Italie. Et justement, c'est un vigneron italien que nous rencontrons aujourd'hui, ou plutôt un Belge. Il va nous expliquer tout ça. Olivier Paul Morandini, bonjour.
Bonjour Romain.
Donc tu es belge, je l'ai dit, et tu diriges un domaine en Toscane, à Campiglia Marittima.
Tout à fait.
Présente-nous un petit peu Fuorimondo.
Fuorimondo, c'est un parcours de vie qui aujourd'hui date précisément de 10 ans. Donc, il y a 10 ans, j'ai fait un volte-face, j'ai changé de vie sur un coup de tête, une seconde, où j'ai eu une opportunité de reprendre un domaine qui, à l'époque, faisait un hectare sur la côte toscane, face à l'île d'Elbe. Et puis, voilà, j'avais envie de me retrouver au milieu de la nature, travailler avec mes deux mains. C'est tombé sur le vin, et puis sur ce petit domaine qui a grandi petit à petit. Aujourd'hui, je travaille essentiellement des cuvées en monocépage, les cépages traditionnels toscans, on va dire revisités, et puis aussi un Cabernet Sauvignon que je décline sur deux cuvées, une cuvée en amphore et puis une cuvée élevée en barrique de chauffe très, très douce et très longue.
Alors, on a déjà parlé de Fuorimondo dans un précédent épisode de La Terre à boire. C'était l'épisode 31, en l'occurrence, dans un cycle qu'on avait fait autour des vins du monde. On vient de déguster quelques vins, pour tout dire. Laurent, tu as un sentiment par rapport à ces vins italiens qu'on vient de goûter. Après, on parlera d'un autre sujet, hein, je le précise.
Moi, j'étais très séduit, effectivement, parce que je n'ai pas l'habitude de proposer des vins italiens au Wine Therapy. Donc, c'est assez inhabituel pour moi d'en goûter, tout simplement. Et je les ai trouvés très gourmands. Un fruit très mûr, très, très, très agréable en bouche. Ils ont un côté très très différent évidemment de ce que je sers et j'ai beaucoup aimé. Et à titre personnel, j'aime beaucoup boire ça. Et je me disais que il serait peut-être temps d'en prendre dans ma cave.
Alors, moi j'ai eu la chance de venir à Campiglia Marittima, de visiter ce domaine, c'est magnifique. On est un petit peu en hauteur, on a vu sur la mer, on a vu sur la Corse et l'île d'Elbe, c'est assez c'est splendide. Donc j'invite les auditeurs à se rendre en Toscane évidemment. On est dans la région de San Vincenzo.
Voilà, c'est face à l'île d'Elbe. Si vous partez pour l'île d'Elbe, vous prenez le bateau à Piombino. Et si vous vous retournez, vous voyez les premiers contreforts, c'est le village de Campiglia Marittima où nous avons le domaine.
Tu as dit un mot des cépages, Sangiovese, il y a aussi le Ciliegiolo.
Ciliegiolo, donc qui veut dire grosse cerise, qui était un assemblage, enfin qui intervenait dans l'assemblage. Et l'Alicante Nera, en fait, qui était un cépage apporté par les Espagnols durant la guerre de religion il y a 5 siècles. Mais ces cépages étaient toujours assemblés. Traditionnellement avec d'autres, avec du Canaiolo, du Colorino et tous ces cépages qui intervenaient dans l'assemblage traditionnel toscan.
Et donc toi, tu as choisi de travailler plutôt en monocépage.
Mais oui, parce que c'est une étape, parce que donc, moi je suis un ignorant du vin, je suis un vigneron sur le tard. Et j'ai besoin de comprendre. Et moi, quand on me dit qu'il faut faire ça comme ça parce que c'est la tradition, ça m'énerve. Donc j'ai besoin de comprendre. Et alors, en 2012, j'ai commencé à faire des micro-vinifications sur chacun de ces cépages en Damjan pour comprendre le rôle organoleptique ou technique du cépage dans l'assemblage. Et puis, je me suis dit, j'ai pu isoler quelques cuvées de cépages que je trouvais méritants pour une cuvée. Et j'évolue avec la méthode de vinification et d'élevage pour essayer de voir jusqu'où je vais pouvoir aller sur l'expression de ces cépages. Et alors peut-être qu'un jour, je serai capable de faire un assemblage, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je suis dans cette phase où j'ai besoin de les comprendre individuellement.
Alors j'étais vraiment très curieux, là tu nous as parlé de blancs à partir de Sangiovese et donc de nous faire des blancs de noir. Je suis très très curieux de goûter ça quand ça sera disponible. Parle-nous-en un peu.
D'abord, je pense que on peut prétendre être vigneron le jour où on est capable de faire un blanc. Je trouve que faire un blanc, c'est beaucoup plus compliqué pour que faire un rouge. Et donc, évidemment, que je cherche à faire un blanc. J'ai pas eu de coup de foudre sur un cépage local. Et donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas tenter un blanc de noir. Donc j'ai fait avec, en 2017, un premier essai sur un Alicante Nera, donc cette grenache noire vinifiée en blanc. J'avais pas eu le temps de faire mon deuxième essai, et j'ai eu le temps par contre de le faire sur 2018, et ce deuxième essai c'est Sangiovese. Et alors c'est, là j'ai eu une mise en bouteille la semaine dernière, tout le monde était parti, donc je me suis posé un petit peu sur la terrasse et j'étais prendre un brut de cuve de mon Sangiovese vinifié en blanc, et j'ai eu bon, parce que il y a quelque chose d'assez inattendu par rapport à l'idée qu'on peut avoir d'un blanc toscan. La Toscane n'est pas connue pour ses blancs, hein. Donc on a une matière incroyable. Et puis ça file en fin de bouche, ça file droit comme un i, donc il y a une minéralité incroyable et il y a un très bel équilibre. Je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare et je suis assez content. Voilà.
Ce sera pour l'année prochaine ?
Non, monsieur. Ça va être. alors déjà, on en parle, donc il n'y a plus de secret, mais c'est quelque chose. Alors là, il va partir sur un élevage en amphore. J'imagine ça va être entre 9 et 12 mois. Je vais le mettre en bouteille, il va se reposer, puis je pense que je le sortirai seulement dans quelques années quand j'aurai quelques millésimes en chai.
Teasing de maître. Alors on va faire un rapide retour en arrière, mais en fait qui va nous ramener vers un sujet extrêmement d'actualité. Tu l'as dit, tu es un jeune vigneron, ça fait une dizaine d'années que tu es installé à Campiglia Maritima. Avant cela, tu étais à Bruxelles, oui. Tu étais un lobbyiste, on peut dire ça ?
Voilà, j'étais ce qu'on appelle lobbyiste, avec toute la connotation péjorative qu'on peut avoir derrière ce terme. Non, en fait, on n'a pas de...
Mais en l'occurrence, tu travaillais pour une cause qui était...
Voilà, il ne faut pas oublier que dans le lobbying, il y a des gens qui opèrent pour la plupart dans des lobbies mercantiles. Il ne faut pas oublier que dans cette famille de lobbyistes, on a des gens qui œuvrent pour des causes citoyennes. Et voilà, et c'était le cas. Pendant 12 ans, j'ai œuvré pour la mise en place d'un numéro d'appel d'urgence qui est le 112. Et donc, voilà, ce sont des batailles assez violentes. Ça reste verbal, mais ça consiste en des interpellations de commissaires européens via le Parlement européen. C'est pointer des dysfonctionnements, des lacunes. C'est de temps en temps attaqué sur des points légaux. Et puis tenter de regrouper des intérêts vers un sujet. Ici, c'était la mise en œuvre d'un numéro commun pour toute l'Europe, avec évidemment la qualité de service qui serait garantie derrière. Et donc il a fallu fédérer services d'urgence, opérateurs télécom, fournisseurs de technologies, de services, et puis le monde politique. Donc voilà, c'était une bataille très enrichissante, parce que ce n'était pas ma formation au début, mais j'ai appris sur le tas tous ces outils de mécanismes européens. Et voilà, mais il y a un moment où j'en avais un petit peu marre de ces couloirs des institutions européennes, et j'avais envie de me retrouver au milieu de nulle part, ne voir presque plus personne, et surtout travailler avec mes mains.
Et tu y reviens, c'est ce qui nous amène ici. Tu restes un vigneron, mais tu t'engages aujourd'hui dans un dossier oui. Qui s'appelle TOWA. Qu'est-ce que c'est que TOWA ? T-O-W-A.
Alors TOWA, c'est Transparency for Organic Wine Association. Donc oui, c'est dans mon ADN. Quand j'ai vu la directive produits biologiques et étiquetage, avec le règlement d'application sur le vin biologique qui est sorti en 2012, bah, y a une grande déception, parce que elle traduit ce règlement traduit un manque d'ambition politique totale. Mais c'était une, voilà, je considère ça comme étant une politique de moindre mal. On fait les choses, pas très bien, mais au moins on justifie qu'on a fait quelque chose. Alors si c'était un premier pas vers quelque chose, vers un règlement renforcé, c'était pas mal, mais on voit que dans les couloirs sombres où justement opèrent d'autres lobbyistes beaucoup plus mercantiles que nous, on voit un abaissement de cahier de charge tant au niveau de la vigne qu'au niveau du travail en chais. Et on maintient de l'autre côté un espèce d'obscurantisme pour le consommateur à qui on ne donne pas accès aux ingrédients du vin, aux additifs, aux procédures, alors qu'on s'adresse à un public de consommateurs qui justement achète un vin bio pour des raisons, qu'elles soient économiques, environnementales, de santé ou toutes ces raisons groupées. Voilà, on a un lobby du vin qui a réussi à convaincre la Commission européenne de considérer l'alcool comme un produit non alimentaire, donc pas sujet à cette imposition de composition des ingrédients sur l'étiquette, alors que j'ai l'impression qu'on consomme davantage de vin que de confiture en Europe.
Cet angle de la transparence est vraiment le cœur de cette revendication de TOA, d'exiger et de s'imposer d'abord à soi-même. Donc c'est un collectif de vignerons bio, de chercheurs, de politiques, de consommateurs,
voilà,
pour demander une transparence, comme tu viens de le dire, comme elle s'appliquerait à des produits alimentaires, mais elle ne s'applique pas au vin.
Voilà.
Donc l'idée, c'est de commencer par se l'appliquer à soi-même, au vin bio.
Voilà, alors il faut bien comprendre qu'il y a un tel laisser-aller, il y a un tel manque de rigueur de la part de l'exécutif, et ici l'exécutif de tutelle, c'est la Commission européenne, finalement, ce laisser-aller, c'est un glissement vers ce qui risque de devenir un scandale, le prochain scandale alimentaire en Europe. Aujourd'hui, on a une politique de l'environnement en Europe qui n'est pas ambitieuse et donc qui ne protège pas ce secteur qui pourtant se veut vertueux. Alors l'approche, évidemment, ce n'est pas un collectif de vignerons, c'est un collectif citoyen qui prend une approche de consommateur et qui regroupe toute une série d'acteurs qui ont leur mot à dire, donc évidemment des producteurs. Donc on a des accords avec des groupements qui nous ont rejoints comme Loire Vin Bio, Renaissance des Appellations, Bio Divin, Raw Wine, Vinature en Italie. Donc des gens qui sont soucieux de pouvoir offrir aux consommateurs un accès à la transparence. Et quand on parle d'accès à la transparence, on ne va pas demander à un vigneron d'écrire une bibliothèque sur sa contre-étiquette. Aujourd'hui, on est dans une société de l'information où on peut avoir accès facilement et via un terminal, via un smartphone, à une banque de données, à un portail européen que la Commission européenne aurait mis à disposition. Les analyses sont réalisées et cofinancées, c'est important, par l'Europe. Et on demande au laboratoire de basculer les informations sur les molécules analysées sur un portail pour lequel un groupe d'experts aura évidemment établi la liste de molécules analysées, leur niveau de mesure, et aura établi évidemment une grille de lecture, parce que la grande majorité des consommateurs ne vont pas pouvoir interpréter eux-mêmes ces données. Donc il faut qu'on ait une grille de lecture qualitative et graduelle qui va permettre de mesurer le niveau sanitaire et dangereux d'un produit. Et juste une petite précision, mais qui est importante, parce que j'entends souvent cet argument qui revient, mais pourquoi la transparence dans les vins bio ? Bien, c'est très simple, c'est juste une question de stratégie. Si demain on veut imposer la transparence sur la réglementation horizontale, comme comme on l'appelle dans le jargon de lobbyistes, donc c'est-à-dire non seulement le vin bio mais aussi le vin conventionnel, on va avoir une armée de boucliers qui va se lever et qui est beaucoup plus puissante que ce qu'on peut imaginer par rapport au bio et qui va empêcher cette action. Le faire sur l'aspect vin bio, c'est de 1, montrer l'exemple d'une auto-volonté de renforcer notre propre règlement, mais de facto, le jour où la Commission européenne adopte la mise en œuvre d'outils permettant l'accès à la transparence, de facto, ce sera imposé sur le vin conventionnel. Donc c'est juste une question de stratégie.
Alors, la question effectivement qui se pose, est-ce qu'il n'y a pas un risque et c'est volontairement provocateur, mais de se tirer une balle dans le pied, en fait. C'est-à-dire, montrer de la transparence sur le vin bio, ça va être aussi reconnaître qu'il peut y avoir certains intrants chimiques dans le vin bio, à des niveaux de tolérance qui sont connus, alors qu'en face, si je peux utiliser ce vocable-là, en face, il n'y a pas de transparence. Donc, est-ce que le risque, c'est pas d'arriver à un consommateur qui dit « Ah, mais finalement, même dans le bio, en fait, il y a des intrants. Donc finalement, pourquoi prendre du bio? Autant aller vers de l'industriel. » Volontairement, je pousse la logique.
Bien sûr. Et c'est tout à fait représentatif du manque de volonté politique de la Commission européenne et de voir qu'aujourd'hui, on a un système en Europe qui fonctionne sur la tête. On marche sur la tête parce que les gens les opérateurs viticoles qui polluent les sols, qui se foutent de la santé du consommateur, le font en toute impunité, le font gratuitement. Et les gars, et ce sont des milliers de familles en Europe, de vignerons, qui se posent une question éthique au quotidien sur la santé des sols, sur la santé de leurs consommateurs, doivent payer des organismes certificateurs pour démontrer qu'ils sont propres. Et, je veux dire, ça, c'est pas la politique qu'on a envie d'avoir en Europe. Et je trouve que... Alors, maintenant, on va parler de cette politique qui a eu des travers au niveau de l'agriculture en général, où on voit nos campagnes qui sont complètement désertées, la vie sociale qui n'existe plus, on n'a pas un boulanger, on n'a pas une pharmacie, on n'a pas un transport public qui dessert ces petites communes. Pourquoi ? Parce que les opérateurs agricoles sont de plus en plus grands. Si on a 1000 hectares qui sont gérés par 10 agriculteurs, on a 250 personnes dans un patelin. On peut avoir des services, on peut avoir des commerces peut-être. Si on a un opérateur pour 1000 hectares, ben on n'a plus rien. Il n'y a plus rien. Et donc, il y a tout ce désastre non seulement écologique, il y a ce désastre social. Et je pense que l'Europe doit intégrer des paramètres humains dans sa politique. Et quand on parle de bio, il ne faut pas oublier que bio, ce n'est pas du marketing. Bio, c'est la vie. Donc, c'est faire la promotion de la vie. Et la vie sous tous ses aspects. Et je pense qu'elle peut briller avec... peut-être un exemple politique à montrer par rapport au reste de la planète, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, la Commission européenne, c'est qui ? C'est notre représentant, il s'appelle Jean-Claude Juncker. Il nous montre à chacune de ses sorties publiques que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, et ça signifie toute l'ambition qu'on a pour notre projet européen. Mais ce personnage, il pilote un avion de 500 millions de personnes. Et je pense que le désintérêt qu'on a au niveau de cette politique, des élections européennes, etc., c'est parce que les sujets apportés et les sujets sur lesquels l'Europe avance ne touchent pas le quotidien du citoyen.
Il y a autre chose dans la démarche TOA. Précisons tout de suite qu'il va y avoir une prise de parole le 2 avril prochain, une conférence de presse à la Commission, à Bruxelles, pour présenter ce projet. Il y en a déjà eu une en décembre et il y a eu une nouvelle action. Il y a, dans la présentation de ce projet, des mots qui sont assez durs face à des sortes d'étapes, des initiatives. Je vais prendre l'exemple de HVE, haute valeur environnementale, qui sont présentées comme des sortes d'étapes. Saint-Émilion, je crois, a intégré HVE dans son cahier des charges. Alors, c'est jusqu'au boutiste, c'est-à-dire de dire mais pourquoi ne vont-ils pas directement sur le bio ? Ou est-ce que c'est de dire ok, ça c'est du greenwashing, ça c'est une fausse démarche, c'est de l'habillage et nous on veut quelque chose de plus... J'ai pas envie de dire radical, mais peut-être, oui, radical.
Alors, il y a une grande confusion par rapport aux consommateurs. Il faut quand même pas oublier que ce qui nous intéresse ici, c'est le consommateur. Alors, d'un côté, on le crétinise en lui faisant passer en ordre de sainteté des produits qui sont certifiés avec des logos, avec des petits ciels bleus, des épis, des oiseaux qui chantent. Hein. Donc ça c'est bon pour mon gamin qui a 7 ans. Moi je suis consommateur, je sais lire, je sais écrire, donc j'ai envie d'avoir accès à l'information. Donc ça c'est une première chose. Et c'est clair que aujourd'hui, quand on voit la prolifération de tous ces logos, ces groupements, ces certificats qui pour les uns sont privés, pour les autres s'appuie en partie sur une base réglementaire, mais le consommateur il comprend plus rien. Et on doit aujourd'hui. La plus belle défense de la rose, c'est pas son épine, c'est son parfum. Et en fait, on a besoin aujourd'hui de notre meilleure arme par rapport à un appauvrissement du bio, par rapport à un scandale alimentaire qui va toucher le bio, parce que c'est clair que quand on retrouve des traces de pesticides, de BPA, de phtalates, même dans les vins nature, biodynamie ou bio, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire qu'en amont, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et ce qui ne fonctionne pas, c'est que, évidemment, la cohabitation d'une agriculture qui pollue ne peut pas fonctionner avec du bio. Alors, on l'est ou on ne l'est pas. Et donc, il ne faut pas oublier qu'on on parle sur des opérateurs, des agriculteurs, des viticulteurs qui font des marges restreintes, très très petites, que faire un passage au bio, c'est un risque, et que si on n'a pas des mesures économique d'accompagnement de la part de la Commission européenne, si on n'a pas de la part de la Commission européenne la volonté de financer la recherche qui doit accompagner ces opérateurs, ça va être compliqué. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même bien se rendre compte que le bio, c'est 6% en moyenne de cofinancement européen et que ça ne traduit pas d'une volonté politique. Et donc, c'est là où le changement politique doit s'opérer. C'est annoncer un plan majeur de transition vers du bio. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, je ne supporte pas entendre dire que le bio coûte plus cher. Alors quand on parle de l'acte linéaire d'achat, oui, un kilo de tomates à 1 euro pour le conventionnel et à 1,80 €, ça semble assez évident que la tomate bio est plus chère. Mais quel est le coût ? Quelles sont les conséquences de l'utilisation de pesticides sur la mort de nos sols, sur l'érosion, les conséquences en cas de catastrophe naturelle, l'impact sur le travail, sur la vie sociale, sur la vie rurale. Et c'est tout ça qu'il faut mesurer. Il faut comprendre que quand l'Europe aura décidé de mettre à armes égales au niveau financier le conventionnel ou le bio, on aura très vite compris que le bio, il est bien moins cher.
Alors, c'est un des axes qui est très important dans cette démarche, et l'intro du communiqué de presse souligne quelque chose qui est qu'aujourd'hui, peu ou prou en France, on est autour de 7% du vin qui est produit qui est bio. On a des chiffres similaires en Italie, en Espagne, en termes de développement. En tout cas, on reste en dessous de 10%. Et vous partez d'un constat qui est de dire, à ce rythme-là, on va plafonner à 10%. Miracle, on atteindra peut-être les 15%, mais on n'est en tout cas pas dans une décision massive, même pas majoritaire, de conversion. Alors qu'on affiche une forme de oh, on va vers le bio. En fait, on n'y va pas. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie, il y a beaucoup de vignerons qui sont concernés, mais si on plafonne à 15% en 2025, en 2030, finalement, on n'aura pas beaucoup à avancer. Donc c'est là où vous dites, il faut que la Commission s'en empare et mette des moyens financiers pour accompagner les conversions.
C'est exactement ça. On monte dans les tours avec le moteur. On est en vitesse 2. Mmh. Et on va devoir passer la vitesse 3 et puis la 4. Et donc, qu'est-ce qui va nous permettre de pouvoir poursuivre cette avancée en termes de culture de vigne qui a augmenté et de demande du consommateur qui a augmenté. Hein, entre 10 et 12 ans, on a fait plus ou moins x3 et x4, c'est les moyens, il faut accompagner. Et ces moyens, c'est juste la traduction d'une volonté politique. Et aujourd'hui, on a un consommateur qui est de plus en plus attentif à ça, mais on ne peut pas lui demander d'être scientifique et de comprendre le comment du pourquoi. Parce qu'il se fie, alors, par confiance, peut-être un peu trop facile, ou par fainéantise, hein, parce que ça prend du temps de comprendre un sujet, il faut s'investir. Mais il y a une confiance au niveau des autorités qui existe. Et qu'est-ce qu'on voit en termes d'autorité qui s'appelle l'EFSA, qui est l'organisme de sanitaire pour la nourriture de la Commission européenne. Eh bien, il y a 3 semaines, elle a été condamnée par la Cour de justice européenne parce qu'elle a privilégié l'intérêt économique de compagnies très sympathiques, Bayer, Monsanto et compagnie, au profit de l'intérêt du consommateur. Et donc, condamnée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce rapport remis de l'EFSA à la Commission européenne, qui elle-même l'a remis aux États membres, qui eux-mêmes ont décidé de poursuivre la commercialisation du glyphosate, ont pris cette décision sur base d'un rapport faux. C'est quand même incroyable. Et alors, qui remet en cause maintenant la décision ? Il y a une erreur. On a un organisme européen qui est condamné. Est-ce que quelqu'un lève la voix pour dire, eh bien, on refait un vote ? Moi, j'aimerais bien le voir. En tout cas, Toa le fait.
Mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir un front qui va être suffisamment uni pour soutenir ce projet ? Parce que quand je discute avec les vignerons, et en particulier les gens qui travaillent de plus en plus proprement, c'est souvent des rebelles, des indépendantistes. Et je n'ai pas toujours l'impression qu'on puisse créer un front commun dans ce domaine-là, de cette transparence, de devoir prouver des choses, parce que souvent certains travaillent même en bio sans vouloir se certifier, et on doit se fier finalement à leur parole pour savoir, ou à notre goût, ou en tout cas à notre expérience et à notre connaissance de leur façon de travailler. C'est très compliqué, ça. J'ai l'impression d'un pot de fer contre un pot de terre, malgré tout, sur ce front.
Alors, on pousse un éléphant. Il est gros, cet éléphant. On ne voit pas ce qu'il y a devant. On est nombreux à le pousser. Il y a un jour où il va marcher tout seul. Alors, il faut comprendre que la réticence que l'on peut rencontrer de la part de certains vignerons, c'est quoi ? C'est un déni. C'est un déni par rapport à la complexité du sujet, par rapport à l'ampleur de cette bataille. On a l'impression de... C'est David contre Goliath. On a bataillé aussi dans sa propre vie parce qu'on a cru en certaines valeurs, donc on a souffert, on était toujours l'exception, puis maintenant que ça va plus ou moins bien, on n'a plus envie de se battre, on a envie d'être, et c'est normal, de se reposer peut-être. Toa, il pense à demain. On pense aux générations qui suivent, les générations qui vont poursuivre ce travail dans nos vignes, dans nos campagnes, ces gens qui vont consommer nos vins demain, donc nos enfants, les enfants de nos enfants. Et en fait, si on ne fait pas ça maintenant, le bio, il tombe par terre, c'est tout. La Commission européenne me l'a dit il y a 2 ans et demi, en disant, si on fait des analyses de sol, on met le bio par terre. Alors moi, j'entends ça, il y a ma colère surgit. Mais la Commission européenne, elle est gardienne des traités. C'est son rôle. Toa ne devrait pas exister. Le 112, c'était la même chose. On doit se fier à nos autorités. Mais si on n'a plus confiance en nos autorités parce qu'elles n'œuvrent pas sur les avancées politiques nécessaires pour notre société, eh bien, le citoyen, il se lève, il étudie et il monte des panels d'intelligence qui fournissent des solutions à la Commission européenne. Et Toa, c'est ça. Donc c'est... Ce sont des scientifiques, des toxicologues, des médecins, des juristes qui présentent à la Commission européenne des solutions face à ses propres responsabilités.
Dernière question. On est là sur une voie réglementaire, voire juridique. Moi, qui me rappelle l'angle qui est choisi par ces organisations, dont Greenpeace, mais Greenpeace n'est pas la seule, qui ont à l'origine de ce que l'on appelle l'affaire du siècle en ce moment, oui. Qui vise à poursuivre l'État français pour inaction face aux défis climatiques. Est-ce que cette lutte, cette démarche juridique est quelque chose qui est proche de ce que vous défendez, en se plaçant justement sur le terrain réglementaire, politique, en interpellant l'exécutif directement plutôt que dans des grands appels aux consommateurs à consommer bio. Il me semble, moi je fais un parallèle entre ces deux
démarches.
Bien
sûr, alors il y a deux aspects, on ne peut pas juste travailler sur un aspect. L'affaire du siècle, c'est extraordinaire d'avoir une levée d'intérêt citoyen en aussi peu de temps. Je pense qu'au niveau juridique, l'angle d'attaque n'était peut-être pas le meilleur choisi. Toa regroupe ses consommateurs, aussi ses intelligences scientifiques, ses experts, ses producteurs. Mais Toa envisage évidemment la voie juridique. Et quelle serait la voie juridique ? Eh bien moi, quand je vois que l'organisme qui autorise la commercialisation de produits pour lesquels les molécules actives ou coformulants sont liées à des maladies, des formes de cancer, du Parkinson, des malformations génétiques, des problèmes de fertilité. Et moi, je vois une co-responsabilité. Et quand ces études qui sortent sont des études de l'OMS, des Nations Unies, voilà, l'autorité scientifique, elle est là. Elle est corroborée par toute une autre population de scientifiques qui vont dans ce sens. Donc je pense que, malheureusement, la Commission européenne, c'est le cancer même, est devenu le cancer même de son propre projet de construction européenne. Elle doit remettre de la vie, de l'éthique et des valeurs. Et évidemment qu'elle elle œuvre avec des composants d'industrie, de croissance. Mais mettons en œuvre les moyens pour accompagner ces industries, mais à produire sur des modèles plus respectueux de l'environnement. Et c'est comme ça qu'on va gagner. Il faut qu'on y aille tous. Ce n'est pas un mouvement de néo-68ards ou de hippies attardés qui se réveillent en disant le bio, pull tricoté et cigarette roulée. Non, non, non. C'est tout le monde. Et aujourd'hui, l'Europe a tellement stigmatisé le bio qu'on en a fait un secteur un petit peu ridicule, concentré sur du pouvoir d'achat. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le produit sain est uniquement réservé aux gens qui ont du pouvoir d'achat. Bah, il faut un petit peu plus d'ambition pour ces citoyens.
Merci Olivier, je pense que le combat et la démarche d'Ottawa est assez claire. Quelles sont les prochaines étapes? Je l'ai dit, il y a donc une conférence de presse le 2 avril. Comment tu vois les
voilà,
mois?
Voilà, donc
on a
réalisé des analyses de 148 molécules sur des vins conventionnels et bio dans 9 pays, et pas que des pays européens. Donc on va présenter les résultats de ces analyses qui sont interprétées par une toxicologue italienne et un toxicologue français qui s'appelle le professeur André Sicolella, qui est une personne grâce à qui on a eu une interdiction du bisphénol en Europe. Une personne qui, il faut le souligner quand même, mène malgré le nom de Macron pour l'interdiction du glyphosate, mène un combat au niveau local pour l'interdiction des municipalités, régions, l'utilisation de pesticides et des résidus dans les cantines, des écoles, dans les hôpitaux, etc., qu'il a signé avec l'Île-de-France, qu'il a signé avec la région Aquitaine. Donc il y a des, même quand on dit non au niveau central, il y a moyen de contourner et d'arriver à faire basculer la donne. Et donc voilà, on va avoir l'interprétation de ces résultats qui seront présentés le 2 avril au Parlement européen. Et on aura comme prochaine étape, parce qu'on a les élections européennes fin mai, donc on va avoir la proposition des commissaires qu'on attend avec grande impatience pour leur audition au Parlement. Donc chacun des commissaires suggérés va passer une audition au Parlement européen. On les attend là avec nos questions pour voir si ils sont au courant de la problématique et s'ils ont déjà pensé à des solutions, parce que nous, les solutions, on les a pour eux.
Merci. Merci Olivier et Paul Morandini pour cette présentation. Je rappelle que dans le collectif TOA, on trouve des noms comme Lydia et Claude Bourguignon, les biologistes du sol bien connus des amateurs de vin qui font des analyses de sol et qui dénoncent ces choses-là depuis bien longtemps. Et en termes politiques, vous avez notamment entre autres porte-parole Michèle Rivasi, députée européenne.
Michèle Rivasi, qui, on doit le souligner, hein, qui est une femme. Donc ça, c'est quand on parle de la protection de la vie, la femme ne peut pas être, on ne peut pas avoir meilleur ambassadeur, ambassadrice qu'une femme, c'est Michèle Rivasi. Mais on en a d'autres, d'autres députés. Mais c'est vrai que Michèle Rivasi a pris le combat à bras le corps.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. On te laisse vaquer à tes occupations. Il y a eu une dégustation et des gens qui s'impatient de pouvoir goûter les vins du domaine Fuorimondo. Bon retour à Campiglia Maritima.
Merci Romain.
Chacun à aller voir. Et vous allez dans le coin, il faut absolument manger dans un peu ta cantine, hein, d'Alcide. Un restaurant extraordinaire.
D'Alcide, et je pense que sans ce petit restaurant de ces deux sœurs, Francesca et Christina, j'aurais laissé tomber mon projet depuis belle lurette.
Merci beaucoup Olivier, à bientôt.
Merci beaucoup, merci à vous.
Au revoir.